Radio Éphémère, nous sommes en direct de l'Université d'été d'Attaque au campus Toulouse Mirail. On cède avec beaucoup de plaisir l'antenne à Supplément Week-end qui sont au studio du boulevard des Minimes et qui vont nous faire la joie de nous donner une quarantaine de minutes de leur meilleure production. À vous, Cognac G.
Merci, Suzanne.
The hearing continued as follows. Now, I'll repeat the original question. Are you now, have you ever been a member of the Communist Party or any kind of...
Bienvenue, nous sommes le samedi 23 août 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
FMR s'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec... le supplément week-end avec l'actu BD, DVD, TV et pas grand chose en fait puisque c'est un programme raccourci puisqu'aujourd'hui Radio FMR et Booster FM associent leurs forces pour la couverture des journées pour les 10 ans d'attaque en direct de l'université du Mirail sur son antenne sur 89,1 MHz. En attendant, bonjour et bienvenue, nous sommes en direct en continu sur www.radio-fmr.net. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Oui, excuse-moi, un petit problème, la version et tout le reste. Aujourd'hui, donc, c'est un programme un petit peu redux du supplément week-end, puisqu'on avait prévu une interview de Sébastien Ruchet, le président de la chaîne de télévision No Life, qui est une chaîne de télévision alternative. C'est remis à la semaine prochaine.
Ouais, alternative, vu toute la pub qu'on a faite autour.
Oh, ça y est, ils arrivent enfin sur les réseaux intéressants. En attendant, aujourd'hui, eh ben, ce sera une émission raccourcie. Et vaut mieux parce que ça va vous donner des sueurs froides et des grosses peurs. C'est une émission supplément week-end spéciale.
Peur.
Froid. Oh. X-Files.
Summer of Love 2008. Pinball Wizards in the Driver's Seat. Par Apollo Zero, le but c'est de remixer les tubes des années 68 avec les tubes des années 88.
Show please me.
collection de mashup qui s'appelle donc Summer of Love 2008. Et en fait, le but du jeu sur les 5 morceaux, sur les 6 morceaux en question, c'est de reprendre un tube du Summer of Love 68 et un autre du Summer of Love 88 et de mixer les deux ensemble. Donc voilà, deux classiques complètement redécouverts. Thomas, tout à l'heure donc, on va parler DVD, on va parler ciné.
Oui.
Avec une sortie technique.
Oui, qui n'est pas resté longtemps, effectivement.
Effectivement, donc ça va être un petit peu court. En attendant, on vous a parlé la semaine dernière du Batman Dark Knight qui nous avait vraiment secoué, qui d'ailleurs n'est pas adapté de Dark Knight, mais plutôt de un long Halloween. Un détail qu'on avait complètement zappé. Heureusement, on a des auditeurs qui sont beaucoup plus calés que nous. Et l'un des comics qui a vraiment adulte de super-héros, c'est The Watchmen. Bien sûr, on a parlé qu'il y avait une adaptation de Watchmen qui était hyper attendue. Les réactions sont extrêmement mitigées entre oui, ça va être génial, etc. Et c'est vrai que les images pètent. Et d'un autre côté, les intrigues à tiroir du Watchmen. Est-ce que la bande dessinée de Dave Gibbons et Alan Moore va être respectée? On ne sait pas. En attendant, le film qui est adapté par la Warner. La Warner, je rappelle, est la maison mère de DC actuellement. Et se fait attaquer par la Fox, par la 20th Century Fox, par le studio, tout simplement parce que le scénario d'une adaptation avait énormément circulé à une époque et la Fox avait réservé les droits d'adaptation pendant environ 20 ans, depuis 1986, en disant on va le faire, un jour on va le faire, un jour on va le faire. Le problème, c'est que c'est une pratique très connue à Hollywood qui est on réserve les droits juste pour empêcher le concurrent de le faire.
On achète une option.
Voilà, et on sait ce que cela donne. Il y a plein de projets qui sont retardés depuis des années, comme l'adaptation de Battle Angel Alita et plein d'autres.
Ah non, mais ça, c'est pas lié à ça, c'est à cause de Cameron, ça. Parce que lui, il est très lent.
Oui, ou encore ce de Tintin, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, là, ça y est, le film est tourné. On a un pré-montage qui dure 3 heures, qui existe. Et le premier focus group qui va écrémer dans ce montage, ça va être deux cabinets d'avocats, celui de la Fox et celui de Warner, puisque la Fox accuse Warner non seulement d'avoir rompu trop tôt le contrat, mais en plus d'avoir repris des éléments qu'ils avaient déjà utilisés, qu'ils avaient déjà écrits pour leur adaptation, à leur sauce. Alors les deux cabinets d'avocats vont essayer de mixer ça. Alors évidemment, on imagine que le réalisateur Zack Snyder doit être à prendre légèrement avec des pincettes en ce moment.
Merde, j'ai travaillé pendant 3 ans pour rien.
Et normalement, la sortie américaine prévue pour mars 2009 reste d'actualité pour l'instant. On verra ce que ça donne.
Ça va arriver vite. Hein.
Ouais, mais en même temps, les avocats, si tu leur dis... vous pétant pour cette histoire, au bout d'un moment, ils se disent « Ah ouais, donc si on traîne trop en longueur, ce sera pas rentable. » Donc voilà, c'est vite vu, quoi. En attendant, on va plutôt parler d'un film dont on a chanté les louanges depuis, là aussi, pendant 2 ans, puisqu'on avait vu une exposition à Angoulême. Il y a eu la sortie qui a eu lieu en février dernier, et on avait un petit peu parlé. Là, on va en parler un petit peu mieux. Oui, je sais, il est midi, ça fait peur.
Excellent, The Fog. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Peur du Noir, le long métrage qui est fait de petits cours d'animation et qui est dans le directeur artistique Étienne Robial et qui est réalisé par les auteurs suivants: Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, Pierre Dicciullo, Lorenzo Mattotti et Richard Maguire. Et c'est un DVD qui est sorti le 21, donc il y a 2 jours. Xavier et moi, nous étions lors de sa présentation à Angoulême il y a 2 ans, c'est ça?
Oui.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans et demi maintenant.
2 ans et demi, oui.
Donc c'est vrai qu'on avait vu 3 minutes d'image. C'était assez intéressant. C'était un pré-montage. On reconnaissait les styles graphiques des dessinateurs, notamment de Richard Maguire, Charles Burns qui fait entre autres Swamp et donc des bandes dessinées sur les mallettes des ados et tout. Et vraiment, c'était visible, c'était flagrant. Et d'un autre côté, il y avait d'autres segments. On sentait que ça sentait un petit peu le remplissage. Bref, on avait eu droit à ce que l'on montre d'habitude aux investisseurs et aux acheteurs de droits.
Il faut savoir aussi que certainement il y avait des segments qui étaient plus avancés que d'autres aussi, à cause de la technique, à cause du style et de la difficulté de d'adapter des styles dessinés en 2D, enfin en plat et non animés en effectivement en film d'animation. Et donc on avait surtout pu voir aussi à travers une exposition à Angoulême justement les avancées des travaux, donc les recherches, les synopsis, les petits bouts d'essais d'animation qui nous avaient fait bien envie d'aller voir tout ça. Donc le DVD est sorti cette semaine. Et
j'aurais juste une chose à signaler, c'est que c'est une initiative du pôle Magélis à Angoulême, qui est en fait une sorte d'union entre les collectivités locales et les entreprises chargées d'animation. Vous savez, c'est là où on produit par exemple Totally Spies ou encore Lucky Luke et plein d'autres dessins animés. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient énormément communiqué dessus pour montrer en avant leur savoir-faire.
Et ce qui frappe dans ce recueil de cours, c'est, enfin dans ce long métrage plutôt, c'est effectivement le côté très très glauque. C'est vrai que nous on est allé, on l'a vu, on est allé la fleur au fusil en se disant bon, peur du noir, voilà, ça va faire appel un peu, bon voilà, pourquoi on a peur du noir, tout ça, est-ce qu'il y a de l'humour dedans? D'humour il y en a un petit peu, mais de façon très détournée, et on va dire que c'est surtout glauque, c'est angoissant, c'est chaque réalisateur en fait a essayé de trouver un angle d'attaque pour une peur particulière. Ça peut être une peur des araignées, une peur par rapport à un monstre précis, par rapport au bestiaire japonais, les yokai, qui a été exploré par Marie Caillou dans un cours qui est très inspiration très manga et très réussi. Et ensuite visuellement, ce qui frappe aussi, c'est que ça a beau être un film en noir et blanc, ce n'est absolument pas un film en noir et blanc, puisque ce sont une suite de petites histoires avec des tons rompus qui sont plus vers le vert, plus vers le brun, etc. Donc tu n'as jamais de noir et blanc pur, hein, en fait, ce que voilà.
Même pour Charles Burns, lui qui travaille toujours à la plume et à l'encre de Chine.
Oui, mais il y a aussi des teintes dans ce noir-là, puisqu'il y a un gros travail d'étalonnage, comme disait Étienne Robial, et le producteur de Peur du Noir, dans la version commentée, une version commentée très intéressante et très où on apprend beaucoup beaucoup de choses.
Justement, en même temps, ce que le noir, Étienne Robial connaît, c'est le créateur du look de Canal+.
D'M6.
D'ailleurs,
c'est un peu ça qu'on reprochait un petit peu dans la bande-annonce, c'est que ça faisait un peu trop esthétique Canal+, avec le Peur du Noir qui était...
On avait l'impression d'être un programme spécial de Canal.
Ouais, voilà, avec les petites trilingues pour iTélé. Bon, c'était juste ça.
On voit que t'as tenté maintenant.
Voilà. Dans la version commentée de... Justement, notamment dans ce que dit Étienne Robial, donc c'est assez intéressant puisqu'il parle de la persistance rétinienne, puisque dans le générique, par exemple, où il y a des pleines images de une ou deux frames d'une couleur qui est le rouge, et ça, en fait, l'œil va être attiré ensuite vers sa couleur complémentaire qui est le vert, et ces petites frames de rouge sont là pour refroidir en noir et blanc du segment qui vient après. Donc c'est très étudié, ça aussi. Il expliquait aussi il fallait que chaque segment soit séparé des autres par un écran noir très précisément calculé pour que ce soit pas trop long ni trop court, etc.
C'est les méthodes qu'on utilise dans les régies publicitaires pour séparer chaque spot. C'est pour ça qu'on a un spot bleu ou blanc sur certaines chaînes de
télé. Ou noir, je crois que sur Canal+, c'est noir.
TF1 est passé au noir, oui. Avant, ils étaient au bleu.
Alors voilà, chacun va évidemment trouver le segment qu'il va préférer. Donc Blutch nous a fait un truc super gore avec une meute de chiens, parce que lui justement il a dit bon, moi j'ai peur des chiens, donc je vais faire ça. Donc c'est dans un crayonné extrêmement intéressant, et l'animation est à tomber. Il y a aussi orchestre autour de danseuse qui va un peu manger bon. Il y a Burns qui nous fait un segment sur un gars qui tombe amoureux d'une nana qu'il fallait pas, avec une histoire que n'aurait pas renié Cronenberg. Marie Caillou, je l'ai dit, les monstres yokai, bon, ça c'est vraiment à tomber, parce que c'est du vectoriel et c'est à la fois un petit peu kawaii et pas vraiment kawaii du tout.
Enfin, c'est kawaii god, quoi.
Voilà, Dichuilo, il nous a fait, je sais pas ce qu'il nous a fait là, il nous a fait un truc super abstrait, mais ça fonctionne très 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 bien sur la voix de Nicole Garcia. faut savoir aussi que le casting est assez lourd, hein. On a du Guillaume Depardieu, Horatica, Arthur H. Arthur H qui prête sa voix à l'excellent segment de Matotti autour d'un crocodile.
Ouais, il y a Nicole Garcia, Luisa Pilli, Christian Heck.
Voilà.
Et donc déjà, c'est une production de prestige, non ouais. seulement par les auteurs qui ont été invités, mais aussi par donc la caractérisation.
Voilà, et pour finir, le segment de Maguire qui est l'un des plus réussis, puisque c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans une maison complètement fermée, et à travers des microscopiques rayons de lumière, on arrive à voir la silhouette du personnage, et Robiel disait que pour que ce soit crédible, il fallait que le personnage soit entièrement animé, et ensuite qu'on aperçoive qu'une tête, par exemple, et si tu animais qu'une partie, c'était pas crédible, parce que toute l'animation était bancale. Donc ça laisse augurer de tout le travail en amont qui a été fait par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Donc évidemment, les deux, le producteur et le directeur artistique insistent sur l'excellent travail d'étalonnage sur les différents segments, puisque comme je disais, l'un va plus tendre vers le vert, d'un autre plus vers le brun, etc. Il s'agit de petites équipes en fait qui ont été mises à disposition de chaque dessinateur, chaque réalisateur. Mmh. Où chacun a travaillé un petit peu en regardant un peu ce que faisaient les autres aussi, mais d'autres plus que d'autres, certains plus que d'autres, et ça donne un résultat qui est assez saisissant et à ne pas mettre devant tous les yeux. Voilà, donc il s'agit de Peur du Noir, le DVD qui est sorti le 21 août, et c'est un excellent DVD qui est sorti chez TF1 Vidéo et édité par Diafana. Prince des ténèbres.
Pas mal. On fait un petit break musical. Septagon Documentary, extrait de l'album Big Black Bank Holes. We'll be right back. La suite est un extrait de l'œuvre de François Pérus, Alika, Les deux minutes du peuple.
Fuchs à l'appareil.
Fuchs, venez nous joindre à mon bureau.
Tout de suite. Qu'y a-t-il ?
Bonjour Fuchs. Un autre dossier que la FBI a tenu à garder secret. Café ?
Non merci.
Dans le petit village de Mansfield dans le Maine, il y a un type qui s'appelle Butlin Fitlin's Crescent. Cigarette ?
Non merci.
Il faut trouver pourquoi son comportement a complètement changé à partir d'une certaine époque. Compris ?
Non merci.
Mais qu'a-t-il fait ?
Il a commis une série de crimes entre 1985 et 1990.
Mais quel nombre effroyable de crimes !
Non, ça c'est les années.
Ah bien sûr.
Mais qu'est-ce qui vous inquiète, Krubarker Negerlerger ? Vous avez les sourcils froncés.
Moi j'ai les sourcils froncés.
Absolument.
Mais je peux pas avoir les sourcils froncés, je suis pas un Français, je suis un Américain.
Bien répondu.
Et puis, pas tout.
Quoi ?
Pas tout.
Pardon ?
Pas tout.
J'ai l'impression que vous nous dites pas tout.
C'est bien ce que j'ai dit, plusieurs fois en plus.
Nous partons pour Mansfield.
Ça semble être un drôle de petit village.
C'est étrange, on dirait que cet endroit me dit quelque chose. Bon, ça va, le pianiste avec l'écho, tu nous les casses.
Va te faire foutre.
Bon, je vais me renseigner à ce type. Monsieur ?
Ouais.
Combien de personnes habitent ce village ?
Ils sont disparus.
Disparus ? Bon, si vous voulez m'excuser, je vais aller régler le cas de ce putain de pianiste de mes deux... Merde.
Oui, ça va, mec, je vais plus jouer, là. Non, je jouerai plus.
Bon, alors qu'est-ce que vous disiez ? Ils sont disparus ?
Ouais.
Y'a plus personne ?
Eh non, ils sont tous là.
Alors, ils sont pas disparus ?
Bien sûr qu'ils sont disparus.
S'ils étaient disparus, ils seraient tous partis !
Je vais le dire un peu plus vite, si vous voulez.
Disparus.
J'ai pas dit qu'ils étaient disparus. J'ai dit qu'ils étaient disparus. Y'a 15 rues, 10 personnes par rue. Disparus.
Bon, ça va. Je suis à la recherche d'un certain Butlin Fitlin Crescent.
Sa maison est juste ici. Vous êtes devant sa porte.
Vous avez déjà noté quelque chose de particulier chez lui ?
Oh, rien, sinon que dans sa maison, on entend toujours cet extraterrestre.
Vous entendez quoi ?
Oh, cet extraterrestre.
Vous entendez un extraterrestre ?
Ouais, on entend toujours cet extraterrestre chez lui, là.
Eh bien, on va voir.
Ouais.
Monsieur Butlin Fitlin Crescent ?
Ouais.
C'est extra.
Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à...
C'est extra.
Qu'est-ce que vous dites ?
Je veux dire, est-ce que vous...
C'est extra.
Qu'est-ce que vous voulez ?
Laissez tomber.
Vous avez vu, on entend toujours cet extraterrestre.
Ça, c'est pas cet extraterrestre, c'est cet extra de ferré.
Le complot quotidien vous est présenté en Dolby Mono Surround par Thomas. Attention, sortie technique.
Ouais. Après Fight the Future, voici Régénération. Et donc, c'était I Want to Believe en VO. Il faut savoir que c'est un titre qui n'a pas été conservé pour l'AVF et par les Allemands, car ils trouvaient que ça faisait un peu trop religieux. Empêtré dans une sombre affaire d'enlèvement d'une de leurs confrères, et aidé par un ancien prêtre...
Ah non, si t'arrives pas à lire, passe-le-moi. Je vais te le faire avec la voix.
Empêtré dans une sombre affaire d'enlèvement d'un de leurs confrères, et aidé par un ancien prêtre pédophile doué de prémonitions, deux agents du FBI font appel aux anciens agents Mulder et Scully.
Ah, t'as pas pu continuer. La seconde est redevenue médecin, le premier est introuvable. Cette affaire va sonner comme une grande remise en question dans leur couple, car, et oui, c'est officiel maintenant, si vous avez raté beaucoup d'épisodes, ils sortent ensemble. On se souvient de ces fameuses pubs à l'époque, quand est-ce qu'ils couchent ? Eh ben là, c'est fait. Alors...
Oui.
Donc, vous en êtes quitte si vous attendiez... Alors, déjà, la rumeur, c'était que... déjà, il y avait un premier long-métrage qui avait été adapté de la série de culte des années 90. C'était donc Fight the Future, X-Files, le film, qui était
intercalé entre deux saisons.
Voilà, qui était intercalé entre le dernier épisode de la saison 5 qui s'appelait La Fin et le premier épisode de la saison 6 qui s'appelait Le Début. Car il supprimait le département des affaires non classées et il le remettait après. C'était un film réalisé par Rob Bowman et puis c'était vraiment un prolongement de la série comme un long épisode qui poursuivait
avec des vrais effets spéciaux
des vaisseaux spatiaux grandiloquents et surtout prolongeait la mythologie de la conspiration. Cette fois-ci, pour ce deuxième long métrage réalisé par Chris Carter lui-même, le créateur de la série, Donc, c'est un épisode loner, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est un épisode indépendant, sans conspiration, sans alien, mais avec un bestiaire particulier.
Pardon, tu as dit épisode ?
Oui.
Tu Tu veux dire que c'est pas un film qu'on va voir, c'est un épisode?
Oui, mais bon, comme ça adapte une série, c'est...
Mais ils auraient pu le faire en téléfilm.
quand on dit l'honneur, on s'attend à tout. On s'attend aux ressourcés du mythe Frankenstein, un loup-garou, un vampire, des insectes tueurs, plein de trucs comme ça. En fait, pas du tout. Vous allez être un peu déçus si vous attendez beaucoup de fantastique dans ce film, puisque la seule dose de fantastique, c'est un témoin clé d'une affaire d'enlèvement qui est doué de prémonition. C'est juste ça. Sinon, l'affaire sur laquelle ils sont chargés d'enquêter, c'est une sombre affaire de trafic d'organes. Donc c'est pas très sexy. En plus, quand tu vois de quoi il s'agit au début, tu dis oh là là, heureusement qu'il y a mal de rescoli parce que sinon ça va être glauquissime. Et c'est glauquissime. Sauf que.
Un prêtre catholique, pédophile et tout, ils sont pas fait chier.
Non. ça donne un prétexte pour quelques dialogues savoureux avec Scully, puisque on sait que Scully est croyante, qu'elle a un rapport très poussé avec Dieu, et on la voit en train de discuter avec ce prêtre quand elle lui sort. Alors lui dit oui, mais vous êtes comme moi. Ah oui, non, mais moi j'ai pas enculé 40 enfants. Oula, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que cette affaire de trafic d'organes et de corps que certains hommes d'Europe de l'Est veulent recomposer n'est que en fait une sous-intrigue, on pourrait dire, puisque justement le principal moteur du film, c'est une radiographie du couple Mulder-Scully. C'est presque un film d'auteur en fait, qui ne serait pas renié par certains auteurs français de films d'appartement. Donc là, il n'y a pas le mari, la femme, l'amant, mais c'est un peu le même style. Donc on voit une Scully qui est retirée, qui est redevenue médecin, qui s'acharne à essayer de sauver un jeune garçon atteint d'une maladie très rare, il va bientôt crever. Mulder est introuvable, bon, il fallait pas chercher très loin, il était dans le lit de Scully, avec une barbe comme as, et en train de traficoter dans son garage. Bon, ça change pas du trop avec le bureau qu'il avait au FBI quand il a rencontré Scully, hein, il était aussi dans un grenier, avec ses posters.
Une cave.
Oui, une cave, ouais.
C'est un vrai geek, c'était une cave.
Et donc, comme je disais, c'est une excellente radiographie du couple Mulder-Scully. Le maître mot du film, c'est ne pas renoncer, puisqu'on va voir les défis, les aventures que vivent les deux personnages, notamment par rapport leur rapport avec ce fameux prêtre, cet ancien prêtre pédophile. Chacun va essayer de le questionner. Mulder, qui est complètement obsédé par sa quête des disparus suite à l'enlèvement de sa sœur. Scully, qui a rapport à Dieu, donc elle va voir plus le prêtre et plus le pédophile plutôt que le témoin clé d'une affaire. Et puis, ça va être c'est un film assez déroutant, comme j'ai dit, assez intimiste, et le principal attrait de ce film, la principale qualité, c'est que contrairement à d'autres adaptations de séries télé, c'est que les créateurs n'ont pas cherché à en mettre plein de clins d'œil de partout. Donc il y a beaucoup de personnages de la série qui sont morts, mais d'autres qui sont vivants, et on aurait pu s'attendre à ce qu'ils soient tous là. Oh, je fais une apparition.
Je suis l'homme à la cigarette. Ouais, je suis le mec in black. Je suis.
Bon, l'homme à la cigarette mauvaise poche, il est mort. Transformé en Indien Navarro, atomisé par un missile d'un hélicoptère. Oui, non, c'est vrai, Dick. Non, par contre, il y a un personnage très connu de la série qui apparaît vers la fin, mais je vous dirai pas qui. Et c'est le seul. Donc c'est assez. On pourrait se dire, tiens, c'est une histoire. Vraiment dans un coin arrangé comme une espèce de trip qui est pas très relié avec le reste de la série, mais qu'on poursuivrait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire pour ce film, et bien on va s'attacher à voir un peu, imaginer ce que seraient devenus nos deux personnages principaux, et puis on va inventer une intrigue secondaire pour faire un peu X-Files. Voilà, c'est un peu l'effet que ça donne. Donc c'est un film déroutant, c'est pas un mauvais film, mais c'est vrai que par rapport aux attentes légitimes qu'on aurait pu avoir par rapport à une adaptation d'X-Files très grandiloquente avec des vaisseaux de partout et tout, ou même quand on sait tout le bestiaire auquel la série s'est attaquée, ou même on aurait pu avoir une ressourcée de personnages emblématiques méchants de la série, comme un énième retour de Jim Toomes ou d'autres personnages de cet acabit. Non, c'est un film pas raté, c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Quand tu le vois, tu dis c'est intéressant, quoi. Voilà, c'est déroutant et ils nous surprennent. Donc c'est un film surprenant, moi j'aime bien. X-Files Régénération, un film de Chris Carter avec David Duchovny et Gillian Anderson.
Alors, pour en revenir sur les X-Files, évidemment, la série a débarqué sur le réseau Fox en 1993, a fait 9 saisons jusqu'en 2002. annonce la fin du monde en 2012. Peut-être qu'il y aura encore quelque chose. J'en sais rien. Bien évidemment, il y a...
Ah, mais tu as dit ce que c'était la vérité, alors, ce complot.
Mais il l'annonce dans le... Il l'annonce dans la série.
Oui, mais ceux qui n'avaient pas vu la fin. Bon, c'est vrai, il y a prescription.
Il y a prescription. David Duchovny joue Fox Mulder et Gillian Anderson, Dana Scully. Du moins, jusqu'à la saison 8 et 9, où là, deux autres personnes prennent la suite des rôles principaux avec des rôles inversés, c'est-à-dire qu'on a la croyante et le sceptique, à savoir Robert Patrick Doggett et Morticia Rice alias Annabeth Gish. Le problème, c'est que ces deux acteurs n'ont pas réussi.
Moi, c'est l'inverse. Annabeth Gish qui interprète Monica Reyes.
Pardon, excuse-moi, je me suis trompé. Ce qui a un peu plombé la série, non seulement il y avait aussi le déménagement de la production qui était à Toronto, qui est revenu sur Los Angeles. Ce qui faisait dire aux fans non plus des ovnis,
c'était pas à Toronto,
mais
c'était à Vancouver.
Du chauvni, enfin bref, vous voyez le genre. Ça n'a pas franchement bien marché. Après, il y a, je vous rappelle, qu'il y a toujours en dans les bacs le Technicart hors série sur les séries télé et où ils expliquent un peu de manière un petit peu violente ce qu'ils pensent de X-Files, à savoir. C'est inquiétant, les épisodes qui ont les mieux vieilli, ce sont les parodies. Tout ça pour en revenir sur... est-ce que les X-Files sont encore une série d'actualité ou est-ce que ce n'est fini plus ni moins que parmi ces posters qu'on a gardés, c'est-à-dire ceux des Spice Girls et de Nelson Mandela. Il faut une comparaison qui est plutôt intéressante. Par exemple, ils expliquent qu'ils prennent plusieurs thèmes, la proto-geek attitude, la parano, la clairvoyance, l'addiction sériphilique, la musique de Mark Snow. On va se concentrer uniquement sur un thème qui est assez intéressant, sur la comparaison, la conspiration ufologique. Dans les années 90, les hommes sortis de l'ombre, tout droit sortis de la guerre froide, qui mettent des bâtons dans les roues de Mulder. Une histoire d'hybridation et colonisation extraterrestre qui s'étendra sur 9 ans, tellement compliquée que plus personne ne comprendra rien. C'était peut-être le but et ça fait tout le charme de la série. Aujourd'hui, le gouvernement américain a menti sur l'Irak, exagère peut-être le danger iranien, a-t-on encore besoin de petits hommes verts ? Les complots les plus dingues peuvent être humains, mais qui croit encore aux ovnis, à part Night Shyamalan et Spielberg ? Jacques Pradel et Jean-Claude Bourret se sont rangés des soucoupes, et même Kyle Hicks n'est pas d'origine alien. Bref, tout ça pour dire que finalement X-Files, appartient à une époque très probablement révolue. Ce qui est très amusant, c'est... Oui ?
On nous fait signe en régie qu'il faut qu'on rende l'antenne.
On va rendre l'antenne dans 2 minutes. Voilà, c'était juste pour terminer là-dessus. C'est une interview de Gillian Anderson 6 ans plus tard qui dit « Scully avait l'attrait d'une bibliothécaire et point barre. » Donc on imagine quand même la gentillesse du truc et de la finesse. Bref, c'est vrai que entre les deux... Hein,
oui, c'est vrai.
C'est quand même pas évident du tout.
Donc, en bonne émission de geek, nous renvoyons l'antenne puisque nous sommes dans la cave d'FMR. Nous renvoyons l'antenne à l'université du Mirail. Un tour de table autour de l'OTAN, les enjeux internationaux avec les deux économistes Jacques Ossard et Nils Anderson. À vous, Suzanne.
Attends, d'abord, on rappelle que la semaine prochaine, il y aura une interview de Sébastien Ruchet, une interview assez longue et prémontée, et qu'en attendant, vous pouvez retrouver toutes les chroniques du supplément week-end sur le site internet suppléments-weekend.tk ou vous cherchez sur Google supplément week-end, on est en premier, donc voilà, c'est nettement plus simple. Supplément week-end FMR ou supplément week-end MP3 si vous êtes sûr de tomber sur nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine donc, et en attendant, c'est une journée spéciale entre Booster FM et Radio FMR consacrée donc aux 10 ans d'attaque, avec donc les coprésidents d'attaque pour un bilan de la première journée de suite avec Suzanne en Acer. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, ciao, bye bye.
Ciao.